France Culture.
Ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
Vous aurez certainement reconnu la musique de la série télévisée Les Envahisseurs. Dans notre cas, ce ne sont pas des martiens, mais bien des êtres humains. Violents, conquérants, dominateurs, ils ont redessiné les frontières au gré de leurs ambitions, brassé les peuples, les idées, les langues et les religions. D'Alexandre le Grand à Hirohito, en passant par Attila, Gengis Khan ou la reine Victoria, ils ont conquis les plus grands empires de la Terre et, chacun à leur façon, ils ont changé le monde.
D'une large et robuste carrure, il était d'une taille élevée, sans rien d'excessif d'ailleurs, car il mesurait 7 pieds de haut. Il avait le sommet de la tête arrondi, de grands yeux vifs, le nez un peu plus long que la moyenne, de beaux cheveux blancs, la physionomie gaie et ouverte. Aussi donnait-il extérieurement, assis comme debout, une forte impression d'autorité et de dignité. On ne remarquait même pas que son cou était gras et trop court et son ventre trop saillant. Tant étaient harmonieuses les proportions de son corps. Il avait la démarche assurée, une allure virile. La voix était claire, sans convenir cependant tout à fait à son physique. Doté d'une belle santé, il ne fut malade que dans les 4 dernières années de sa vie, où il fut pris de fréquents accès de fièvre et finit même par boiter. Mais il n'en faisait guère alors qu'à sa tête, au lieu d'écouter l'avis de ses médecins, qu'il avait pris en aversion, parce qu'il lui conseillait de renoncer aux mets rôtis auxquels il était habitué et d'y substituer des mets bouillis. Il s'adonnait assidûment à l'équitation et à la chasse. C'était un goût qu'il tenait de naissance, car il n'y a peut-être pas un peuple au monde qui, dans ses exercices, puisse égaler les Francs. Il aimait aussi les eaux thermales, et s'y livrait souvent au plaisir de la natation, où il excellait au point de n'être surpassé par personne. C'est ce qui l'amena à bâtir un palais à Aix et à y résider constamment dans les dernières années de sa vie. Quand il se baignait, la société était nombreuse. Outre ses fils, ses grands, ses amis, et même de temps à autre la foule de ses gardes du corps, étaient conviés à partager ses ébats, et il arrivait qu'il y eût dans l'eau avec lui jusqu'à 100 personnes ou même davantage.
L'envahisseur que nous abordons aujourd'hui n'est autre que Carolus Magnus, c'est-à-dire Charlemagne, à l'ouest du Rhin, ou Karl der Große, à l'est, dont nous venons d'entendre la description par Egin Hart, son principal chroniqueur, extrait lu pour nous par Daniel Königsberg. Charles, c'est le conquérant, l'unificateur du continent, le modèle de l'empereur par excellence. Né sans doute en France vers l'an 748, sacré à Rome, empereur en l'an 800, est mort en Allemagne en l'an 814. Le fondateur de la dynastie carolingienne a largement dessiné la carte politique de l'Europe telle que nous la connaissons, et les limites de son empire ressemblent beaucoup à celles de l'Union européenne actuelle. Qu'est-ce qui a permis son triomphe face à d'innombrables ennemis internes et extérieurs? Quels furent les facteurs de ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne? Et qu'a-t-il vraiment légué à notre monde? Pour répondre à ces questions, j'ai la chance d'avoir 3 éminents médiévistes à mes côtés. Geneviève Bureur-Thierry, bonjour.
Bonjour.
Bruno Demisil, bonjour.
Bonjour.
Et tout de suite, pour commencer ce questionnement sur l'identité réelle de Charlemagne, sa psychologie, je me tourne vers l'invité à ma gauche. Régine Lejean, bonjour.
Bonjour.
Régine Lejean, vous êtes historienne, spécialiste de l'Europe médiévale, professeure émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vos recherches croisent histoire et anthropologie au sujet du monde franc et du haut Moyen-Âge. Votre dernier ouvrage en date s'intitule « Amis ou ennemis, émotions, relations et identité au Moyen-Âge » et s'est publié aux éditions du Seuil en 2024. Alors pour commencer, j'aimerais vous demander, que sait-on vraiment des débuts de Charlemagne? Pourquoi d'ailleurs une telle ambiguïté sur sa date de naissance et plus encore peut-être sur son lieu de naissance, qui, disons-le tout de suite, a un sous-texte très politique.
Alors, l'extrait que vous avez passé tout à l'heure des Ginart est évidemment fort intéressant et on pourrait parler des heures. Il pose tout de suite la question de ce que nous savons de Charlemagne, parce que ce que nous savons de Charlemagne, en tout cas de sa personnalité, de son mode de vie, de son entourage, vient essentiellement des Ginart et de cette vie qu'il a écrite à une date que nous ne connaissons d'ailleurs pas, et alors que Ginart n'a pas connu Charlemagne au début de sa vie, puisqu'il n'est arrivé à la cour de Charlemagne qu'au début des années 790, alors que Charlemagne a succédé à son père en 768, et qu'il est né probablement en 748, en avril 748. Nous connaissons la date, 2 avril, mais nous ne connaissons pas exactement l'année. Nous pensions qu'il était plus jeune, mais finalement les recherches érudites des historiens allemands, sur lesquels je ne vais pas m'attarder, conduisent à penser, et ont conduit en particulier Janet Nelson, la grande historienne britannique qui a fait un très gros ouvrage sur Charlemagne récemment, à opter pour 748. Donc Eginhard arrive à la cour tardivement, on va dire, dans les années 790, et il écrit très probablement à la fin des années 820, la date non plus n'est pas sûre et elle est fort discutée entre les historiens, mais personnellement, je pense pour la fin des années 820, à destination de Louis le Pieux, donc le fils de Charlemagne, et comme une sorte de miroir, si vous voulez, pour montrer à Louis le Pieux ce qu'un bon dirigeant, un bon roi, un bon empereur doit être. Donc, ce que nous savons dépend essentiellement des Ginart.
Je vous repose la question du lieu de naissance. Parce que c'est sensible.
Pourquoi est-ce que c'est sensible?
Est-ce qu'il est né en France? Est-ce qu'il est né en Allemagne?
Ça ne veut rien dire, la France et l'Allemagne.
Alors, justement.
À l'époque.
Francie occidentale.
Oui, il est né, ça c'est sûr, il est né en Francie occidentale. Sa mère Bertrade a passé une partie de sa grossesse à l'abbaye de Saint-Denis, pas chez les moines, mais l'abbaye de Saint-Denis aux dames. On pense qu'il n'est pas né à Saint-Denis, mais probablement au palais de Quercy. Donc
Quercy-sur-Oise,
un des grands palais fréquentés le plus souvent par les Carolingiens. C'est probablement là qu'il est né.
Et qu'est-ce que c'est que la Francie occidentale à l'époque, d'ailleurs?
Alors, la Francie occidentale, c'est un terme qu'on emploiera essentiellement après le partage de Verdun, donc en 843. C'est la partie qui va devenir la France et qui a été attribuée à Charles le Chauve, donc l'un des fils de Louis le Pieux. On peut dire que là, on peut appeler ça la Francie.
Le royaume de Pépin le Bref.
Oui, si vous voulez, quoique le royaume de Pépin le Bref s'étend aussi à l'est du Rhin, on va dire la Francie, le cœur de la Francie, c'est-à-dire jusqu'au Rhin. C'est ça, entre la Seine et le Rhin, on peut aller jusqu'à la Loire, mais c'est ça la Francie.
Et du coup, quelle était son identité culturelle? Quelle langue parlait-il?
Alors ça, c'est une bonne question. Quelle langue parlait Charlemagne? On s'accorde à dire qu'il parlait le proto-français, une langue proto-romane, dérivée du latin, mais qui est de plus en plus loin du latin parlé. Et donc, on peut appeler ça le proto-français, mais il est très certainement bilingue, comme le sont toutes les élites de cette époque-là, toutes les élites au nord de la Loire en particulier. Et il parlait très certainement aussi une langue qui va devenir le vieil haut-allemand, ou qui est le vieil haut-allemand. Par ailleurs, il a appris le latin.
Donc il a appris le latin et le grec? Ou juste le latin, à votre avis?
Eginhard dit qu'il connaissait un peu de grec. Bon, c'est peu probable. Il savait peut-être quelques mots de grec. C'est probable. Mais il avait appris le latin. Donc il est bilingue, il a appris le latin. Ne sait pas exactement quand, peut-être à l'abbaye de Saint-Denis, a été élevé.
Il a été élevé à Saint-Denis, mais alors ça permet peut-être de tordre le cou à un autre mythe autour de Charlemagne. Est-ce qu'il était cet illettré qu'on a voulu présenter par la suite, qui aurait fondé l'école pour, pour se rattraper sur le tard? Ou est-ce que ça fait partie de la légende dorée?
Oui, ça fait partie de la légende dorée. Il a reçu une éducation religieuse qui lui a été donnée d'abord par sa mère, puis par les moines de Saint-Denis, et très certainement un précepteur. Et Ginard dit qu'il ne savait pas écrire, mais il savait probablement lire. Et par ailleurs, l'éducation peut être reçue par des lectures qu'on fait aux jeunes enfants. Donc, il a écouté les moines, il a écouté ses précepteurs, et on lui a enseigné ce qu'il fallait savoir de la foi chrétienne, mais certainement aussi des textes hagiographiques. Et ensuite, il a appris les arts libéraux, il a parfait sa culture au fur et à mesure.
Et comment se porte le royaume carolingien au moment où naît Charlemagne? Enfin, Charles d'ailleurs, c'est pas Charlemagne. Et c'est un pouvoir récent. Est-ce qu'il est légitime? Je me tourne vers vous, Geneviève Bureur-Thierry.
Charles, le petit Charles, quand il naît comme fils du maire du palais, d'un prince très important qui a beaucoup de pouvoir, Pépin, comme nous appelons Pépin le Bref, qui prend le pouvoir en renversant la dynastie précédente, la dynastie mérovingienne, en 751, puis qui fait confirmer ce coup d'État, si l'on peut dire, par le pape en 754. Donc, quand Charles naît, que ce soit en 747 ou 48, ne change rien, il ne naît pas comme fils de roi. Il va devenir fils de roi à partir du début des années 750. À ce moment-là, le royaume franc est sous le contrôle de cette famille de mères du palais qu'on appelle les Pipinides, donc du nom de Pépin, hein, avant qu'ils deviennent les Carolingiens lorsqu'ils deviendront une dynastie royale, qui contrôle assez largement la Francie dont on a parlé tout à l'heure sans aucune difficulté. Un peu moins clairement les duchés, principautés périphériques, que ce soit l'Aquitaine au sud-ouest, la Bavière à l'est, etc. Mais quand même, globalement, c'est un pouvoir qui a tendance à se conforter, à se consolider.
Et vous avez parlé du père de Charles, du petit Charles, qui est Pépin le Bref, fils de Charles Martel. Sa mère, Berthe au grand pied. Alors, moi, j'ai grandi en croyant qu'elle avait des grands pieds au pluriel. C'est grand pied au singulier, d'ailleurs. D'où vient ce surnom?
Alors, d'où vient le surnom de Berthe au grand pied? Je dois dire que je n'en sais rien.
Moi, j'ai cru comprendre que c'était lié à un pied beau qui serait magique.
Ça, c'est une légende.
C'est une légende.
C'est une légende qu'on retrouve aussi dans l'idée de l'histoire de la reine Pédocque, qui est aussi une vieille légende. Hein. Des femmes qui auraient des pattes d'oie, des pieds palmés ou un pied pas fait comme les autres, etc. Ça, ce sont des légendes qui n'apparaissent que vraiment à la fin du Moyen-Âge. Donc, il n'est jamais question dans nos textes carolingiens des pieds de Berthe, de quelque manière qu'ils soient.
Elle s'appelle Berthe de Lens, c'est ça ?
Bertrade
de Lens.
Bertrade ou Bertha de Lens, parce qu'on sait ça assurément que son père était comte de Lens, mais on ne sait pas si le père vivait encore au moment du mariage qui a lieu en 744. Et voilà ce que l'on sait. Elle se rattache à une illustre famille austrasienne, c'est-à-dire issue de la même région que les Pipinides, qui correspond en gros à l'est de la Belgique actuellement.
Mais alors, si l'épicentre est en Austrasie, donc l'est de la Belgique, pourquoi est-ce que Bertrade donc vient de Lens? Pourquoi est-ce que Pépin est sacré à Soissons? Pourquoi est-ce que Charles est sacré à Noyon? Son frère Carloman, dont on va parler, est sacré juste à côté. Pourquoi est-ce que l'épicentre paraît être dans l'Aisne?
Parce que c'est le centre de la dynastie mérovingienne. Et que les Pipinides, Charles Martel, donc, qui est d'une certaine manière le fondateur de la dynastie, en prenant le pouvoir et en assurant son pouvoir, réside très largement, lorsqu'il n'est pas en campagne, réside très largement dans la partie occidentale, c'est-à-dire le cœur du royaume mérovingien, et là où il y avait quand même eu des résistances aux Pipinides. Donc, Soissons, c'est une des plus anciennes capitales mérovingiennes, et ça n'est pas du tout étonnant que ce soit à Soissons que Pépin ait été élu, sacré, une première fois, puis à Saint-Denis, la vieille nécropole aussi royale mérovingienne, qu'il ait été sacré une deuxième fois. Et Charles Martel a voulu être inhumé à Saint-Denis. Pépin est inhumé à Saint-Denis. Charles Martel ne l'est pas, mais il est mort un peu brutalement. Donc c'est là le cœur et les palais royaux sont très nombreux, les palais royaux mérovingiens sont très nombreux dans cette région et c'est donc tout à fait normal qu'ils aient voulu résider là.
Vous parliez d'inhumation, pour faire un flash-forward, disons, Charlemagne, Charles n'est pas inhumé à Saint-Denis.
Non, il est inhumé à Aix-la-Chapelle.
Et alors, que nous disent, que nous racontent ces ossements sur sa taille, sur ses jambes arquées, comme un cow-boy? Qu'est-ce qu'on peut dériver de l'archéologie sur Charlemagne?
Alors, on ne sait pas grand-chose. Le tombeau a été ouvert par Othon III très, très tardivement. Hein. Donc, on ne sait pas grand-chose. Il était grand, effectivement.
C'est pas une légende.
Ah non, ça, c'est pas une légende. C'est pas une légende qu'il était grand. Après, ça n'était pas le géant que semble dire Eginhard, mais c'était quelqu'un qui en imposait, très certainement. On a beaucoup de sources là-dessus. Et s'il a été inhumé à Aix-la-Chapelle, c'est parce que Charlemagne a voulu faire de Aix sa capitale, une véritable capitale. Et il a fait construire une église somptueuse en faisant venir des marbres de Ravenne, des mosaïques. Et on ne sait pas du tout où il voulait être inhumé. Donc, il a été inhumé le jour même de sa mort. Et ceux qui ont organisé ses funérailles, c'est-à-dire essentiellement le comte Valas, son cousin et ses filles, l'ont fait inhumer à Aix, aussi pour empêcher son fils Louis d'avoir son mot à dire sur les funérailles, mais il n'aurait pas pu parce qu'il était très loin en Aquitaine.
Et sur cette psychologie du personnage, sur son aura, on parle beaucoup de la foi de Charlemagne, sa religiosité. Je me tourne vers vous, Bruno Dumézil. Est-ce que ça, c'est une réalité historique ou ça fait partie de la légende dorée du prototype du grand roi, du grand prince qui va se tresser à travers le Moyen-Âge?
Alors c'est évident qu'on a affaire à un roi chrétien, hein. C'est quelqu'un qui va se présenter comme le défenseur de la foi, le protecteur du dogme, même celui qui va définir l'orthodoxie, puisqu'il va intervenir à plusieurs reprises pour dire exactement ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut prier. Il va même changer le texte fondamental du christianisme, hein. Le credo tel qu'on le récite aujourd'hui dans l'église catholique a été transformé par Charlemagne. Et en même temps, c'est un peu, comme le disait Régine Lejean, le vieux Charlemagne, parce que les premières années du règne, on a très très peu d'informations, hein. Le coup d'état de son père ne se passe pas forcément bien. Et donc, il faut imaginer un bambin de 4 ans qui est un peu baladé à droite et à gauche parce que le père est toujours en guerre. Et puis, lorsque Charlemagne monte sur le trône en 768, ça se passe pas forcément très bien non plus. Et Eginhard, que l'on évoquait, nous dit « je n'ai rien entendu dire sur la jeunesse du personnage ». Bon, c'est assez invraisemblable, hein. C'est comme si aujourd'hui on ne savait pas que le président de la République a été un enfant, ni ce qu'il a fait jusqu'à ses 30 premières années.
Vous dites, c'est qu'on a un peu balayé sous le tapis.
Un début de règne qui a sans doute été très très difficile et surtout très contesté. Et ça, au Moyen-Âge, on déteste, hein. On a horreur des parvenus, on a horreur des usurpateurs. Donc on va normaliser ce début de règne en oubliant le jeune Charlemagne pour que l'empereur, qui n'a pas encore de barbe fleurie, mais qui devienne le vieil empereur, soit le personnage normalisé.
Oui, c'est tout à fait exact. Je voudrais revenir même sur la jeunesse. Effectivement, on ne sait rien parce que Eginhard ne nous a rien dit. Mais on peut même supposer que la famille royale n'était pas particulièrement unie. On a des indices selon lesquels Pépin aurait voulu divorcer. C'est une lettre du pape qui nous le dit. Et les travaux que j'ai pu mener récemment là-dessus me laissent penser qu'effectivement, pendant plusieurs années, les relations entre les époux n'étaient pas particulièrement bonnes. Et on ne sait pas exactement comment les deux fils, Charles et Carloman, dont on sait qu'ils ne s'entendaient pas, par Eginhard, se sont positionnés. Il est possible que Bertrand ait été plus proche de Carloman que de Charles. Et donc, effectivement, tout ça n'était pas forcément simple. Non. Et la mort du père a également créé de fortes tensions entre les deux frères, jusqu'à la disparition quasi miraculeuse, on va dire, pour Charles, de son frère Carloman, la fuite de sa belle-sœur. Et la prise en main du royaume par Charlemagne, la prise en main des régions périphériques en particulier, où ça s'est passé là aussi assez difficilement.
France Culture, ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
Faction, complot, conflit imbécile. Pourquoi Constantin a-t-il fait de Byzance la capitale de l'Empire d'Orient ? L'Église est coupée en deux. Comment rompre les liens qui nous unissent depuis des siècles ? Et pourtant, j'y suis obligé par nécessité.
C'est ce que je m'efforce de changer.
Mais est-ce possible ? J'ai couronné tes fils parce que tu es le seul apte à défendre l'Église que les impies ont juré de détruire.
De qui parlez-vous ?
Des Saxons, bien sûr.
À force de vouloir leur imposer nos lois, j'ai perdu beaucoup trop d'hommes. Ils brûlent nos villages et disparaissent comme par enchantement. Ils massacrent tout ce qui vit et soudain... disparaissent.
Ils rongent ton royaume comme des rats.
Oui. Tout ce que j'ai réussi à découvrir récemment, c'est que leur chef se nomme Vidukind.
Ils adorent un arbre sacré du nom d'Irmansul. Vas-y, détruis-le. Trouve Vidukind. Convertis-le. Fais-leur connaître la Bible. Tu dois regrouper tous ces peuples au nom du Christ et maintenir la paix au sein de tes frontières ou alors renonce à vouloir défendre l'Église. Elle périra, et tes fils ne régneront jamais.
Le duc Tassilon est-il prêt à m'aider ? La Bavière est voisine des Saxons. Le duc est-il un bon chrétien ?
Il l'est. Il obéit aux lois de notre mère l'Église.
Tiens, tiens. Tassilon sera sûrement heureux de m'aider à conquérir la Saxe, une fois pour toutes. C'est l'occasion rêvée de voir si c'est un aussi bon chrétien qu'il le dit.
Nous venons d'écouter un extrait du film Charlemagne, prince à cheval de Clive Donner, sorti en 1993, qui nous décrit donc l'une des actions cardinales de la vie de Charlemagne, on va y revenir, la conquête et la conversion des Saxons. Pour parler de l'action militaire et des accomplissements de Charlemagne, je me tourne à présent vers Geneviève Bureur-Thierry. Je rappelle que vous êtes historienne, professeure émérite d'histoire du Moyen-Âge à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des sociétés du Moyen-Âge. Vos travaux portent sur les mondes francs et germaniques, ainsi que sur l'Europe centrale des 7e au 11e siècle. Vous étudiez plus particulièrement l'histoire politique et sociale, y compris l'histoire des femmes et du genre, ainsi que l'histoire de l'Église et des processus culturels. Vos ouvrages de référence incluent « L'Europe carolingienne » aux éditions Armand Collin et avec Charles Mériot, « La France avant la France » aux éditions Belin. Alors pour revenir à Charlemagne, quelle est la motivation de cet homme ? Est-ce que c'est, comme on vient de l'entendre dans cet extrait, soutenir la foi chrétienne, étendre la paix, convertir au christianisme ? Ou est-ce que c'est une psychologie, un moteur de l'action plus classique des chefs francs et des rois francs qui l'ont précédé, Pépin, Charles Martel, son grand-père, et avant ça, Clovis, enfin les rois mérovingiens, ou même avant, même l'empereur Auguste, qui va être un modèle, j'imagine aussi.
La conquête carolingienne est un élément très important dans la construction du pouvoir même de Charlemagne et, comme vous l'avez dit, plus largement de n'importe quel chef de guerre. On a besoin de la conquête, d'abord pour faire du butin. Il est clair que, de tout temps, tant que cela a été possible, les Francs, mais comme vous l'avez dit, avant eux les Romains et après eux d'autres, utilisent la conquête pour asseoir leur pouvoir, pour associer plus étroitement l'aristocratie à leur pouvoir, hein, puisqu'il n'y a pas de Charlemagne, c'est pas la royauté absolue, hein, c'est une royauté qui s'appuie sur des alliances, des soutiens absolument indispensables, hein, au pouvoir royal ou impérial. Et ces soutiens viennent évidemment de l'intérêt que ces aristocrates vont avoir à participer à la conquête. Le premier intérêt, c'est de faire du butin et de pouvoir disposer de nouvelles terres, donc de nouvelles charges publiques, etc.
Et alors, on parle souvent, enfin, on parle de Charlemagne comme l'instaurateur de l'ordre médiéval. Vous parlez de l'aristocratie, de l'armée. Est-ce que on est déjà dans un système féodal, disons, ou est-ce que c'est un anachronisme à l'époque des conquêtes de Charlemagne? Est-ce qu'il y a déjà ce système, cette pyramide qu'on apprenait à l'école avec le roi, les ducs, les marquis, les comtes?
Alors, on n'est pas encore dans le système féodal, mais il y a néanmoins des comtes et des marquis qui sont des représentants du roi. La féodalité, elle prend sa racine dans le monde carolingien, ça ne fait absolument aucun doute, en particulier dans le lien personnel. Ce qui fait la féodalité, ce qui est particulier dans la féodalité, c'est le lien personnel, le lien d'homme à homme entre un chef et ses hommes, hein, qu'on appelle les vassaux. Alors, ce qu'on voit se développer en effet à l'époque de Charlemagne, disons même des premiers carolingiens, hein, c'est une forme de relations privilégiées avec des guerriers qui sont les vassaux du roi, qui lui sont directement liés, qui forment d'ailleurs très probablement des sortes de, si ce n'est troupes de choc, disons du moins troupes qu'on peut lever très rapidement et qui sont extrêmement efficaces, qui sont des troupes de cavaliers, et ça c'est aussi une particularité.
Alors justement, là aussi on est en train de parler des prémices du Moyen-Âge. C'est quoi le guerrier, le grand guerrier carolingien? Est-ce que c'est déjà un chevalier en armure ou en cotte de maille sur un gros destrier, ou est-ce qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade-là? Qu'est-ce qui fait la force de l'armée de Charlemagne?
Alors, il n'y a pas encore de cotte de maille à proprement parler, pour autant qu'on sache. Il y a ce qu'on appelle la brogne, qui est une sorte de cuirasse au sens propre, hein, c'est-à-dire une tunique de cuir qui est recouverte d'écailles de métal, un peu comme des écailles de poisson qui se recouvrent l'une l'autre, et qui semble avoir été un élément défensif très important des débuts de ce qu'on appelle la cavalerie lourde, hein, c'est-à-dire des cavaliers assez lourdement armés avec cette brogne, donc avec un avantage défensif certain, avec une lance, avec deux épées, avec un écu, etc., qui montent à cheval, avec des étriers. Depuis quand, on n'en sait rien. Là, il y a une discussion infinie entre les spécialistes dont je ne suis pas, pour savoir à partir de quand l'armée franque dispose des étriers.
Alors, pour nos auditeurs, c'est quand même un vrai enjeu, parce que sans étriers, on est beaucoup moins stable sur son cheval. Alors, on a suivi les aventures d'Attila la semaine dernière. Léa n'avait pas de problème parce qu'il naissait à cheval. Mais pour un chevalier, ou disons un cavalier carolingien lourdement lesté, vaut mieux avoir des étriers. Sinon, on tombe à la première des convenus.
Ce qui est clair, c'est que l'étrier a été inventé par Attila, comme vous dites, c'est-à-dire par les guerriers de la steppe d'Asie centrale, hein, probablement au 3e siècle, au 7e siècle. On sait qu'il y en a dans le monde byzantin, ça ne pose aucun problème. Ce qui est plus compliqué, c'est de savoir à partir de quand il y a des étriers dans le monde occidental. Autrefois, on disait, grâce aux étriers, Charles Martel a remporté la bataille de Poitiers. Maintenant, on ne dit plus ça. Et
732, rappelons-le, le grand-père de notre Charles.
Voilà.
La bataille qui bloque l'avancée des troupes arabo-musulmanes.
Voilà, les arabo-musulmans qui étaient à cheval aussi n'auraient pas eu d'étriers, alors que les Francs auraient eu des étriers. Bon, après, des grands spécialistes de l'armement militaire, comme par exemple M. Bacharach, dans un livre pas très ancien, dit « Ah mais pas du tout, il n'y a pas besoin d'étriers pour mener une charge de cavalerie lourde, dès lors que les cavaliers sont côte à côte, comme on le lit dans des grands poèmes épiques comme le Valtarius, par exemple, qui est un poème du début du IXe siècle, où on voit en effet la cavalerie lourde chargée côte à côte, c'est-à-dire jambe contre jambe. Et le but, ce qui fait la force de cette cavalerie lourde, c'est en effet sa capacité à ne pas se débander, c'est-à-dire à faire bloc, c'est comme un mur. Et là, c'est évidemment très difficile, hein, d'avoir la supériorité sur une cavalerie comme celle-là.
Et alors, quelles sont les grandes actions militaires Est-ce qu'on peut rappeler les grandes étapes? Alors, première étape, finalement, c'est profiter de la mort de son frère Carloman pour annexer le royaume de son petit frère, hein, si je comprends bien.
Oui, c'est tout à fait ça, sauf que
il y a une guerre civile ou ça se passe assez facilement?
Non, il n'y a pas de guerre civile parce que le parti de Carloman, qui a sans aucun doute existé, n'est pas suffisamment puissant ni suffisamment organisé, sans doute, pour lutter contre les prétentions de Charlemagne.
Mais il y a des oppositions. On le voit dans les familles aristocratiques. Charlemagne est obligé de prendre le contrôle des grands monastères. Par exemple, le monastère de Lorsch, qui avait été fondé par une grande famille fidèle de Carloman. Il y a un conflit. Charlemagne met la main sur ce monastère. Et on a d'autres exemples comme ça qui montrent qu'il y a des oppositions. Et Charlemagne, d'ailleurs, a épousé Hildegarde, une femme issue d'une famille franco-alémanique, pour rallier une partie de cette aristocratie fidèle de Carloman.
Je me posais une question, d'ailleurs. Le modèle d'héritage mérovingien a clairement montré son échec. Il a entraîné les rois fainéants, le morcellement du royaume en 1000 petites principautés. Pépin, qui renverse la dynastie mérovingienne, pourquoi est-ce qu'il se sent obligé de reproduire ce modèle de division du royaume entre ses fils? Et à quel moment ils vont comprendre qu'en fait, c'est mieux de centraliser que de diviser l'héritage? C'est un héritage culturel trop fort pour eux en tant que francs, ou comment vous expliquez ça, Bruno de Musil?
Et parce que ça marche très bien. Au contraire, il n'y a pas eu d'échec. Tant qu'on a partagé le royaume, il n'y a jamais eu de division au-delà de 3 ou 4. Hein. C'est 3 ou 4 petites entités. Chaque grand parti aristocratique peut avoir son roi de proximité. Donc tout le monde était content, hein. Ça se passait bien.
Il y a quand même des petites guerres en permanence entre frères, entre cousins.
Petites.
Des étranglements.
Petites, mais comme le disaient mes collègues, le pillage, la petite guéguerre, ça vous donne du prestige, de la richesse, ça occupe tout le monde au printemps. Hein. Donc c'est bien. Mais de la petite guerre, la vraie guerre, le belloum, hein, la guerre organisée, c'est vers l'extérieur. Et donc, en fait, c'était un système qui était relativement stable. Et justement, Charlemagne met fin à ce système. Et ça ne va pas durer très longtemps, puisqu'on sait que dès les années 840, on va retrouver un système de partage.
Rappelons-le, il partage entre ses fils, mais la plupart meurent. Il en reste qu'un, Louis. Et c'est au niveau des petits-fils que se reproduit ce système de partage.
Voilà, lui, il a partagé avec son frère. Il va essayer de prévoir un partage entre ses fils. Le hasard va être qu'à sa mort, il ne laisse qu'un seul fils survivant, Louis le Pieux. Louis le Pieux a prévu un partage très inégal, mais les partages ont toujours été inégaux. Et il se trouve que le hasard fait que ces partages prévus par Louis le Pieux ne vont pas bien se passer, parce qu'il avait prévu de partager en 3, et puis il y aura un fils surnuméraire, ce qui va entraîner là une vraie guerre civile.
On n'y est pas encore. Pour revenir à l'action de Charlemagne, je me retourne vers vous, Geneviève Burr-Thierry. Donc, conquête du territoire de Carloman, qui d'ailleurs n'est pas divisé à l'époque un peu d'est en ouest comme on l'a en tête à cause du traité de Verdun, justement, dont on parlait, c'est-à-dire entre les fils, trois parties d'est en ouest. Là, au contraire, bizarrement, c'est plutôt un partage, disons, nord-sud, une diagonale un peu bizarre qui correspond pas à grand-chose aujourd'hui, quoi.
Oui, en gros, c'est ça. On ne retrouve difficilement des entités qui existent encore aujourd'hui dans ce partage entre Charlemagne et Carloman. Mais on ne peut pas dire que la prise en main du royaume de Carloman, de la part de Carloman, soit une action véritablement militaire de Charlemagne. Si on parle ici des envahisseurs, on peut pas dire que Charles ait envahi le royaume de son frère.
Alors, justement, quelles sont les grandes conquêtes de Charles? Donc, primo, l'Italie, j'imagine. Enfin,
la première grande conquête, bien sûr, c'est celle du royaume des Lombards, donc en 774. Alors, ça a commencé en 773. Hein. Les armées franques ont passé les Alpes, ont surpris les Lombards par un mouvement de tenaille assez classique, hein, dans la stratégie carolingienne, qui consiste à diviser les corps d'armée en plusieurs parties de manière à pouvoir encercler l'ennemi, tout simplement.
On parle d'une armée de quelle taille? La grande armée, est-ce qu'on parle de l'ost déjà, ou le mot
on
est un...
On peut parler de l'ost, oui.
Alors 40 000 hommes.
La grande armée, c'est extrêmement difficile. On trouve toutes sortes de chiffres quand on regarde la littérature là-dessus, les spécialistes. Autrefois, on disait 200 000 hommes. Alors ça, c'est complètement impossible. Hein. Ouais. 100 000 hommes, voilà, c'est l'armée romaine à la fin du 3e siècle. Donc ça, c'est exclu. On pense que théoriquement, il aurait pu peut-être lever jusqu'à 50 000 personnes, oui, mais pas ensemble. Donc, en gros, oui, l'armée, c'est quelques milliers. Allez, on va dire 10 000 au grand maximum. Et là-dessus, peut-être 2 à 3 000 cavaliers. Le reste, le gros de l'armée, reste quand même les fantassins. L'armée franque, c'est une armée de fantassins à l'origine.
Donc, c'est une armée très efficace. L'Italie du Nord, toutes les la Bretagne, la Frise, toutes les marges de...
La Bretagne, pas si facile quand même. Hein.
Enfin, globalement, c'est une armée qui est très efficace. Et quelle va être, du coup, la grande avancée de Charlemagne. Ça va être les Saxons quand même. On peut dire que c'est la grande affaire de sa vie militairement.
Alors c'est la grande affaire de sa vie parce que c'est l'affaire qui dure le plus longtemps. Mais c'est aussi là qu'il appréhende les défaites les plus cuisantes, hein, en particulier en 782, à la bataille du Suntal, où les Saxons arrivent. Ben, la cavalerie, disons, manœuvre mal parce qu'elle manœuvre pas ensemble. Il semble là qu'il y ait eu d'ailleurs, si on en croit les annales, quelques difficultés entre les chefs des différents escadrons qui ne s'entendaient pas et qui ne voulaient pas que l'autre remporte la gloire de la victoire. Moyennant quoi, les uns ont attaqué sans attendre les autres. Ils se sont embourbés dans les marécages parce qu'ils connaissaient pas très bien le terrain. Les Saxons en ont profité et on sait qu'il y a plusieurs dizaines de hauts dignitaires de l'Empire qui sont morts dans cette bataille. Ce dont d'ailleurs Charlemagne va se venger en faisant.
Oui, j'allais dire, il y a eu des grosses vengeances de Charlemagne.
Des milliers de Saxons.
Voilà. Pourquoi est-ce qu'il était si obsédé par la conquête et la conversion des Saxons? Est-ce que c'est son appel religieux pour devenir un grand homme, pour répondre aux injonctions de l'Église? Ou est-ce que c'est géostratégique, quoi? Il veut protéger, il sait que tant qu'il y a une réserve de barbares à l'Est, son royaume ne sera pas en sécurité.
Alors, il y a plusieurs éléments. Les Saxons et les Francs se connaissent depuis très très longtemps et les Saxons sont tributaires, hein, c'est-à-dire ils payent un tribut pour avoir la paix au roi des Francs depuis la fin du VIe siècle, hein, depuis les Mérovingiens. Donc ça, la rivalité, si vous voulez, elle est pas nouvelle. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la volonté de Charlemagne de construire un royaume chrétien qui ne soit pas menacé sur ses frontières par des païens. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme réservoir de païens dans le royaume de Charlemagne? Mais il n'y en a plus qu'en Saxe, parce que tous les autres sont christianisés. Alors évidemment, ils sont christianisés de manière très superficielle, pour la plupart. En tout cas, dans la partie germanique. Mais les Saxons, eux, ont toujours refusé le christianisme, parce qu'ils ont bien compris que devenir chrétien, c'était aussi se placer sous l'autorité des Francs, leurs voisins. Et donc, c'est certain que le paganisme, en l'occurrence, qui n'est pas trop une doctrine bien organisée, est un élément de l'identité, un élément très important dans la résistance de ces Saxons, parce que se soumettre au christianisme, c'est se soumettre au roi des Francs.
À l'imperium, à l'autorité.
Tout à fait.
Et alors justement, cet imperium nous amène à quand même peut-être la question centrale dans la vie de Charlemagne. Noël 800, Léon III à Rome, sacre Charlemagne, empereur d'Occident. C'était l'objectif d'une vie, à votre avis, pour Charlemagne? C'est une stratégie de remboursement de son pouvoir? C'est une alliance avec Léon III qui lui-même a failli être menacé et que Charlemagne a plus ou moins sauvé? Pourquoi tout d'un coup émerge ce nouvel empire d'Occident?
Je doute que ce soit une stratégie pensée dès le départ. C'est un concours de circonstances qui permet à Charlemagne de saisir l'occasion. Charlemagne, c'est un opportuniste. Hein. C'est-à-dire que les conquêtes dont on parle tant sont des conquêtes qui répondent à chaque fois soit à une demande d'alliance, soit à une difficulté sur la frontière, soit à la possibilité de faire un butin extraordinaire, comme il va le faire chez les Avars à la fin des années 790.
Hongrie actuelle, c'est ça?
Voilà. La couronne impériale, c'est pareil. La possibilité de devenir empereur lui est en quelque sorte offerte par les circonstances, donc les difficultés du pape, le fait qu'il vient à Rome pour rétablir le pape dans ses droits.
Qui a presque été tué l'année d'avant, hein, il faut le rappeler.
Voilà, qui a été.
Il organise d'ailleurs un procès qui est très étrange, qui est à la fois un procès des assassins et un procès du pape. Et c'est le même procès en même temps, quoi.
Alors, c'est pas véritablement un procès du pape, disons que.
On va tirer l'affaire au clair, quoi.
Voilà, le pape a été victime, en effet, d'un véritable attentat, hein, où il a risqué sa vie. Il est allé se réfugier à la cour de Charlemagne, qu'il a fait reconduire à Rome. Mais les rumeurs, si le pape a été attaqué, c'est parce qu'il y a des rumeurs sur sa manière de conduire les affaires de l'Église et sur sa probité morale. Voilà, des affaires à la fois de malversation, de coucherie, on ne sait pas très bien. Et donc, pour le laver de toutes ces accusations, on va demander au pape de prêter serment, un serment purgatoire, c'est-à-dire de se purger de ces accusations, de jurer sur les évangiles qu'il est innocent de ce dont on l'accuse. Ce qui est évidemment une manière assez humiliante, d'une certaine manière, hein, pour le pape.
J'ajoute qu'en fait, Charlemagne n'avait pas le droit de juger le pape. C'est aussi la raison pour laquelle c'est le pape lui-même qui doit se purger et reconnaître ses fautes. Le pape n'aurait pu être jugé que par un concile, éventuellement, une réunion des évêques, mais pas par Charlemagne.
Est-ce qu'on peut dire que cet empire d'Occident va façonner l'image du roi, l'image du pouvoir pour tout le Moyen-Âge qui va suivre, et, enfin, jusqu'au temps moderne presque, d'une certaine manière. Est-ce que ça va devenir l'archétype de ce qu'est le pouvoir, finalement, Charlemagne, pour nous en Europe ?
Ça va devenir l'archétype du pouvoir impérial, c'est-à-dire que tous les empires qui vont succéder à l'empire carolingien en Occident, et en particulier le Saint-Empire romain germanique, ce qu'on appelle le Saint-Empire à partir du XIIe siècle, mais qui est reconstitué, un nouvel empire d'Occident qui est constitué à partir de 962 par Othon Ier, un descendant des chefs saxons que Charlemagne a combattu d'ailleurs, c'est assez étrange. Il est clair que Charlemagne est un modèle pour tous ses empereurs. Ça, c'est tout à fait certain.
Alors, c'est l'homme de tous les succès, c'est le modèle. Et pourtant, paradoxalement, c'est peut-être par une défaite qu'on le connaît le mieux, une petite défaite finalement. Et ça nous amène à notre troisième extrait.
L'empereur se fait et bal ses liesses. Cordes à prises et les murs pessayés, hôtes ses cadavres, les tours en abattier. Moule grand échec en long six chevalets, d'or et d'argent et de garnement chers. En la cité, Nénadromesse païen ne sait oxy ou devient chrétien. L'empereur et son grand verger, ensemble de lui, Roland et Olivier, Samson les ducs et Anseïs les fiers, Geoffrey d'Anjou, le ré gonfanouné, et six furent et Gerin et Geré. Là où six furent, des altres y eut bien. De douce France y a 15 000. Sur palisse blanc siède s'ils chevalets, à stable joue pour elle ses banayés, et à ses chèques les plus saives et les vieilles, et escrémisse ses bachelets légers. De sous un pin, de laisse on églanté, une falle de steu d'ion fait tout dormer. Là siète l'iraise qui douce France tient. Blanche a de la barbe et tout fleurit le chef. Jante a de le corps et le contenant fier. C'est ce qu'il demandait, ne laisse-toi t'enseigner. Et les messages descendirent à pied, s'ils saluèrent par amour et par bien.
France Culture, ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
Bien, nous venons d'écouter un extrait de la chanson de Roland, de Thurold. Extrait lu en langue anglo-normande que nos auditeurs auront peut-être aussi peu compris que moi. Ça parle d'une bataille sanglante, pourtant relativement mineure à l'échelle du règne de Charlemagne et qui pourtant est certainement la plus connue au Moyen-Âge, la plus célébrée, c'est la bataille de Roncevaux. Et pour parler de la postérité de Charlemagne, ainsi que son rayonnement culturel, je me tourne à présent vers Bruno Dumézil. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne. Vos recherches spécialisent dans l'étude des élites nobiliaires du Haut Moyen-Âge, notamment la tumultueuse saga des Mérovingiens et celle des Carolingiens, mais aussi l'étude des structures religieuses médiévales. Parmi vos derniers ouvrages, il y a « L'Empire Mérovingien » aux éditions Passé Composé, publié en 2023. Bon, alors revenons à Roncevaux, si vous le voulez bien. Donc l'arrière-garde de Charlemagne, dirigé par son neveu Roland, comme chacun sait, est écrasé dans ce col pyrénéen en l'an 778. Massacré même, et là, c'est le Gascon qui vous pose la question, massacré non pas par les Arabes d'Al-Andalus, mais par les Vascons. Donc qui sont les massacreurs de Roncevaux ?
Alors, on a affaire à des pouvoirs chrétiens qui sont installés dans les Pyrénées depuis relativement longtemps. Et Charlemagne était parti en Espagne. À vrai dire, il ne savait pas trop ce qu'il était allé faire. Il pensait profiter de désordres dans Al-Andalus, donc des conflits entre des gouverneurs arabes pour s'emparer de plusieurs villes. Ça n'a pas du tout fonctionné et donc c'est une expédition relativement piteuse. Et au retour, il pille des villes chrétiennes, ce qui ne se fait pas trop, notamment Pampelune. Et les populations chrétiennes du nord de la péninsule se vengent en massacrant son arrière-garde en 778. à un endroit qu'on ne connaît pas, mais qui s'appellera par la suite Roncevaux. Et les annales royales n'en parlent pas. Donc au palais, silence radio total sur la défaite. Ce n'est que bien plus tard que l'on admettra que oui, beaucoup de très très grands personnages se sont fait tuer, notamment le sénéchal du palais, c'est pas rien, hein, c'est quand même pratiquement le premier officier du palais, et puis un obscur marquis de la Marche de Bretagne qu'on appelle Roland, qui deviendra beaucoup, beaucoup plus tard le neveu de... Pour l'instant, c'est un inconnu. Mais enfin, ça fait quand même pas mal de monde qui a laissé la peau dans les cols pyrénéens. Donc, c'est vraiment une grosse défaite.
Et du coup, donc, c'est Vascon, c'est les Basques actuels, c'est les Gascons, c'est les deux. Sont les vainqueurs de Roncevaux?
Ça dépend comment vous traduisez, puisque Vasco, ça signifie les habitants du nord de l'Espagne à l'époque romaine. Et puis après, on va le transformer en Gascon. C'est une façon aussi de traiter les Aquitains, parce que Charlemagne n'a jamais été bien chez lui en Aquitaine. Hein. Sa première grande bataille, c'était d'écraser le duc d'Aquitaine. Donc, il a fait beaucoup de ce qu'on appellerait des guerres civiles, mais qu'on peut aussi considérer comme des guerres extérieures, vis-à-vis de cette espèce de far west de son territoire, qu'est cette Vasconie.
Est-ce que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il confie le territoire très vite à son fils ?
Ah oui, on n'est pas dans une zone où les Carolingiens sont puissants. Hein. Et quand on parle d'Aquitaine, le fils de Charlemagne va être installé dans la région de Poitiers. Bordeaux, c'est pas une région où on est très bien pour les Carolingiens. Alors, il va essayer de faire quelques petites opérations de fondation de monastères, d'installation d'élites. Mais très honnêtement, l'Aquitaine est à peine carolingienne. Hein.
Et pour revenir sur les incursions au sud des Pyrénées, dans Al-Andalus, est-ce qu'à votre avis, l'ambition première de Charlemagne était de repousser le califat vers l'Afrique du Nord ? Est-ce qu'il y avait une notion géographique du continent européen à défendre ? Ou est-ce que c'était une guerre, comme vous dites, une guerre de frontières, une guerre de marche pour sécuriser ses propres frontières sur les Pyrénées ou juste au sud ?
Alors, c'est une guerre de marche, et puis c'est ce que mes collègues ont déjà dit, c'est une guerre opportuniste. Hein. Il y a du butin à faire, il y a des villes à prendre, il y a des territoires qu'on peut récupérer et donc ensuite confier à des élites, hein, parce que l'idée, c'est pas de garder, c'est que ces villes-là, on va pouvoir les donner à des branches bâtardes, secondaires de la famille carolingienne ou à des grands aristocrates. Donc, il y a une tentative, ça ne marche pas. Charlemagne est tout sauf un dogmatique, hein. Ça ne marche pas, tant pis, on va attendre, on verra, et puis ça remarchera par la suite, puisque dans les années 800, il va revenir beaucoup plus prudemment, beaucoup plus intelligemment, et là, il va réussir à s'emparer de Barcelone et créer une marche qu'on va appeler la marche d'Espagne, qui est l'origine de la Catalogne actuelle.
Et plus globalement, est-ce que, notamment plus tard, une fois qu'il sera empereur, Charlemagne se sent investi d'une espèce de défense de la chrétienté occidentale, du catholicisme? Je pense à la fois vis-à-vis de l'islam et vis-à-vis de l'orthodoxie, avec qui, finalement, il a des rapports assez ambigus, l'empereur de Byzance.
Ah, il se sent certainement investi d'une mission de défendre la chrétienté. Ensuite, la défendre contre quoi ? Mais contre tout. Et ça dépend, ça peut être contre de mauvais chrétiens, et il va lutter beaucoup contre l'hérésie. Ça peut être contre les...
On peut rappeler les hérésies contre lesquelles il lutte ?
Alors, il va...
C'est l'arianisme, c'est...
Alors, l'arianisme, il y en a...
C'est passé ?
Il y en a plus depuis bien longtemps. Ça va être ce qu'on appelle l'adoptionnisme. Alors, l'adoptionnisme, c'est assez compliqué, c'est une hérésie.
Et que Jésus est adopté par Dieu, c'est ça ?
Voilà, ce qui présente le fils comme étant une sorte de fils adopté. Mais il va lutter surtout contre Constantinople, donc il va y avoir un conflit dogmatique avec Constantinople autour de la réception du dernier des grands conciles œcuméniques, le concile de Nicée II. Alors Charlemagne a sûrement reçu une mauvaise traduction, ou en tout cas il va argumenter qu'il faut défendre absolument l'orthodoxie.
Et alors c'est un point très précis, mais c'est lui qui installe ce qu'on appelle le filioque.
Alors voilà, il change aussi le texte du credo. Hein. Donc il va dire que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, ce Alors qui ça, n'était pas du tout dans les anciens textes.
Ça a l'air d'être un point extraordinairement précis. C'est une traduction latine, filioque et le Fils. Mais l'air de rien, cette querelle du filioque, ces deux mots, la traduction de ces deux mots, sont en gros à l'origine du schisme entre les orthodoxes et les catholiques qui persiste jusqu'aujourd'hui.
Oui, c'est un point qui est quand même fondamental, c'est que le texte fondateur de la profession de foi chrétienne, occidentale et orientale n'est pas le même. Et c'est Charlemagne qui, pour des raisons multiples, mais surtout pour imposer son autorité, va changer ce texte sur un point qui ne semble pas convaincre le pape. C'est ça qui est intéressant. Le pape ne semble pas du tout enthousiasmé par l'introduction de ce terme de filioque, mais qui va annoncer des grandes ruptures, alors qui vont rebondir au XIe siècle et surtout au XIIIe siècle avec la prise de Constantinople par les Occidentaux. Mais on est à l'origine d'une rupture majeure entre les chrétientés.
Et ça souligne quand même un point important. On a parlé du Charlemagne militaire, mais il y a aussi un Charlemagne diplomate. Il est en relation diplomatique avec Bagdad, avec Byzance, avec l'Angleterre. Comment se passe, je me tourne vers vous, Geneviève, comment se passent les échanges diplomatiques à l'époque ?
Les échanges diplomatiques se passent beaucoup par personnes interposées. Donc on envoie des ambassades avec des lettres qui sont lues, avec des cadeaux. Alors on connaît très bien la fameuse ambassade envoyée par le calife Haroun al-Rachid, qui est donc le contemporain de Charlemagne, le grand calife de Bagdad, qui lui a envoyé des cadeaux somptueux, dont un fameux éléphant qui a été installé dans le parc d'Aix-la-Chapelle, puisqu'à Aix-la-Chapelle, il y avait ce qu'on appelle un breuil, c'est-à-dire une sorte, je ne dirais pas de jardin zoologique, mais en tout cas de ménagerie. Voilà, ce qui était tout à fait courant. Hein. Et donc, on a installé là l'éléphant. Il semble que l'éléphant ait participé à une dernière péripétie militaire sur la frontière de la Saxe contre les Danois, où il serait là probablement mort de froid, la pauvre bête.
L'éléphant contre les Vikings.
voilà. Et il semblerait aussi que ces ossements, ou en tout cas peut-être ces défenses, aient été conservés à Aix-la-Chapelle, un petit peu comme des reliques.
Ah,
c'est
oui.
Assez étrange. Voilà l'histoire de cet éléphant. Donc pour en revenir à la diplomatie, oui, bien sûr, il y a des relations à très longue distance. Alors les relations avec les rois anglo-saxons, elles sont traditionnelles dans le monde franc. Hein. Le monde anglo-saxon n'est pas étranger, n'est pas du tout coupé du monde franc, pas non plus depuis les Mérovingiens. Il y a beaucoup de relations.
C'est un monde où les idées circulent finalement. C'est un monde d'échange ou c'est un monde très cloisonné? Je me tourne vers vous.
Les hommes circulent aussi. À la cour de Charlemagne, il y a beaucoup d'étrangers. Ce qu'on a appelé l'école palatine, c'est une école formée à partir d'hommes que Charlemagne a attirés à sa cour. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Alcuin, donc qui vient des îles Britanniques. Mais on a aussi Théodulf qui vient d'Espagne. On a Pierre de Pise qui vient d'Italie. On a Poldia qui vient d'Italie. Donc il y a une circulation intense des hommes, des manuscrits et des idées, évidemment.
Et justement, est-ce qu'on peut dire que Charlemagne est aussi dans une forme de brassage des idées, de brassage des peuples, mais aussi de brassage social? Est-ce que c'est quelqu'un qui cloisonne socialement? Il y a l'élite, l'aristocratie, ou est-ce que la Renaissance carolingienne va aussi être un moment de renouvellement social?
Non, là, on ne peut pas tellement dire. Hein. On connaît la célèbre histoire de Charlemagne qui récompense les enfants pauvres qui ont bien travaillé, mais c'est une histoire qui est inventée presque un siècle après Charlemagne. Non, on est plutôt dans un monde d'ordre. Et l'ordre, c'est en fait des groupes sociaux relativement cloisonnés. Il y aura toujours un petit peu de mobilité sociale. Les grands intellectuels pourront monter, mais enfin, on reste entre soi. Il y a une trentaine de grandes familles, on va dire 60 si on regarde largement pour l'aristocratie au niveau européen. Et puis, ça ne va pas bouger. Il va recruter toujours ses grands officiers, ses grands serviteurs. Ben, c'est un monde déjà visqueux. Hein. C'est pas vraiment des inférieurs, ce sont des partenaires. Et donc, il a besoin de se marier, il va se marier très souvent avec ces gens-là. Il va distribuer, il va échanger. Et donc, on ne peut pas tellement faire de mobilité sociale. Quand on a un fils d'esclave qui va devenir archevêque de Reims, ça sera le scandale absolu.
Et alors, justement, vous parliez des mariages. Donc, ce roi très chrétien, ce modèle du monarque bon, juste et donc suppôt de la foi, se marie donc au moins 5 fois. Il a au moins 5 concubines connues dont il a des enfants. Enfin, c'est quoi la stratégie maritale de Charlemagne? Comment est-ce qu'on explique cette profusion?
C'est ce qu'on appelle de la monogamie sérielle, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule épouse à la fois, mais il en a souvent. Donc ça permet de multiplier les alliances, qu'elles soient diplomatiques, même si on n'est pas très bien documenté sur la première alliance, avec les grandes familles aristocratiques. Il se marie utilement. Hein. Généralement, on ne choisit pas une épouse, on choisit un beau-frère. Hein. Et il va réussir à obtenir des gens qui peuvent le servir. Et puis, il y a aussi des concubines qui sont moins bien connues, mais enfin, effectivement, il y a un certain nombre de concubines, ce qui va produire beaucoup d'enfants. Peu de garçons légitimes, beaucoup de filles qu'il va utiliser. Alors, il ne les mariera pas, mais il va les placer intelligemment. Il aura parfois des petits-enfants illégitimes aussi. Et puis, ça fait une masse de bâtards qui vont servir la dynastie. Hein. Alors, la bâtardise n'est pas encore théorisée à l'époque carolingienne. Mais ces enfants qui n'ont pas de droit sur le trône, on va les placer comme évêques, comme abbés. Et puis, certains vont faire des belles carrières. Et c'est un petit-fils fort illégitime de Charlemagne, Nithard, qui sera le plus grand historien du IXe siècle.
Et Donc, monogamie sérielle, mais donc le divorce est autorisé à l'époque carolingienne ou on répudie ou l'épouse meurt opportunément ou est appelée par le couvent. Enfin, comment est-ce que Charlemagne passe d'une épouse à la suivante?
Alors, on est dans une période de transition. Le divorce est encore possible. Le divorce au 8e siècle est prononcé par les évêques. Donc c'est encore possible. On a des formulaires de divorce qui nous sont conservés dans des papiers épiscopaux. C'est quand même de moins en moins bien vu. Et quand on arrivera au 9e siècle, ces divorces vont être en théorie interdits. Donc on est dans une phase un peu intermédiaire. Charlemagne, en fait, va divorcer une fois, mais va surtout être veuf. Hein. Et donc, on a souvent des veuvages. Et Charlemagne va profiter de cette situation-là pour se remarier. Et puis, sur la fin de sa vie, rester veuf dans l'espoir peut-être d'imposer l'impératrice de Byzance. Il y avait peut-être ce projet d'épouser Irène, impératrice de Byzance, et donc ainsi de réunifier l'Empire romain. Bon, ça semble très, très nébuleux. Dans tous les cas, les dernières années, il aura des concubines, ce qui ne sera pas trop bien vu quand même par son entourage et surtout très très mal vu par son successeur qui va envoyer tout ce petit monde loin du palais.
Et donc, il lègue son royaume, enfin son empire à son seul fils. Mais, enfin, au début, il le lègue d'ailleurs à ses trois fils, les trois chouchous, hein, les enfants de Hildegarde de Swab. Il écarte tous les autres de la succession.
Le premier a essayé de se révolter, hein, quand même. Donc, y a le royaume de Charlemagne, c'est à peu près autant de conquêtes que de révoltes intérieures. Et il y a quand même une révolte qui a été menée par le premier fils. C'était pas très heureux. Il s'appelait Pépin. Il avait un très joli nom carolingien. Et donc, oui, après, il va laisser l'empire en théorie à ses fils. Les deux premiers meurent rapidement. Et donc, en 813, il va couronner co-empereur son fils Louis le Pieux pour préparer la succession.
Et dernière question, pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de la figure de Charlemagne? Est-ce que c'est la géographie européenne? Est-ce que c'est la structuration sociale de l'ordre féodal qui a quand même duré longtemps? Est-ce que c'est la chanson de Roland qu'on a écoutée? En quoi est-ce que Charlemagne est finalement contemporain pour nous, enfin pertinent pour notre monde?
Et il reste ce texte extraordinaire qu'on a lu au début, qui est Eginhard, la vie de Charlemagne. C'est un des textes qui a le plus circulé au Moyen-Âge. Il faut se dire que ce texte qui présente un empereur parfait, qui a unifié l'Empire, qui aurait contrôlé tout le territoire, et qui est faux, hein, ça a un retentissement extraordinaire. Pensez qu'au XIe siècle, si les rois de Norvège s'appellent Magnus, c'est parce qu'ils veulent se placer comme le nouveau Carolus Magnus, le nouveau Charlemagne. Et ce texte, il va fasciner Louis XIV, il va fasciner Napoléon. Hein. Napoléon va rêver de se faire couronner à Aix-la-Chapelle. Alors son entourage, notamment Talleyrand, lui a dit que ça aurait peut-être été mieux de s'installer quand même du côté de Notre-Dame de Paris. Mais on va aller à Aix-la-Chapelle chercher les reliques. Et puis le Kaiser, Guillaume II, va faire ouvrir la tombe pour essayer de revoir l'empereur de l'an 800. Tout le monde va vouloir mettre ses pieds dans les pieds du Charlemagne, pas de la chanson de Roland, qui n'a pas été si bien diffusée que ça, mais d'Eginhard, parce que c'est un texte très beau, très complexe, et qui permet de créer un modèle pour tous les grands conquérants.
Merci. C'est la légende de Charlemagne, et c'est déjà le moment de terminer cette émission avec une lamentation sur la mort de Charlemagne, ce qui s'appelle en latin un planctus médiéval. Il est anonyme et il fait l'éloge de l'empereur et il est sans doute composé l'année même de sa mort. Merci Régine Lejean, merci Geneviève Bureur-Thierry, merci Bruno de Misil d'avoir été avec moi pour décrypter la figure tutélaire du grand Charles. C'était le 4e épisode de notre enquête Les Envahisseurs, une série d'Alfred de Montesquieu préparée par Sophie Leiner avec les archives de l'INA, réalisée par Rafik Zénine avec à la technique aujourd'hui Bruno Mourlan. Vous pouvez retrouver toutes nos références bibliographiques et réécouter cette émission en podcast sur l'appli Radio France.